enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ils sont heureux d'être sauvés. Hein, ça nous fait du bien d'être à l'Église avec la famille de Dieu dans la présence du Seigneur. Puis moi, j'aimerais qu'on puisse juste exprimer notre appréciation ensemble. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble et donner une belle ovation au Seigneur, les mains ensemble, avec un cri de victoire et de joie? On veut exprimer notre joie d'une façon concrète et tangible. La joie que nous avons de connaître le Seigneur, d'être à la maison de Dieu, entouré des amis, la famille de Dieu, ça nous fait du bien. Merci Seigneur. Nous voulons célébrer ta présence ce dimanche matin, ce jour mis à part pour célébrer ta présence, pour t'honorer, te louer, t'adorer. Toi seul la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration. Alléluia. Merci Seigneur pour ta bonté. On applaudit toi parce que tu mérites cette acclamation. On sait que tu es présent, tu es témoin de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit ce matin, et on offre, Seigneur, du début jusqu'à la fin, l'adoration, la louange, la prière, l'offrande, on donne notre argent, nos louanges, Seigneur, le message, la parole de Dieu, on offre à toi pour ta gloire et ton honneur. On prie pour avoir des oreilles, pour entendre ce que ton esprit dit à l'Église ici ce matin, ça fait partie de notre adoration, d'être à l'écoute de ta parole. Je réclame l'onction de ton Saint-Esprit, ton aide, ta force, ta grâce, sagesse, pour bien communiquer cette parole et aide-nous à bien l'entendre et le mettre en pratique. Sois glorifié, Seigneur, encore dans ces quelques instants ensemble. Agis par la puissance de ton Saint-Esprit. On prie pour ta gloire et ton honneur au nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit amen. Vous pouvez vous asseoir. Si vous avez votre Bible, regardez avec moi Genèse chapitre 13. Genèse 13, dans les premières pages de votre Bible. Sinon, les passages vont être sur l'écran. Quand j'ai su vendredi soir, seulement vendredi soir de cette semaine, que c'est moi qui prêchais ce matin, j'avais tout de suite à cœur une pensée que j'avais partagée avec le ministère pour les célibataires de l'Église Nouvelle Vie en toute fraternité il y a quelques mois. Et ce matin, ce n'est pas rien qu'une pensée que j'ai pour vous, mais une parole. Une parole pour toute personne qui ont déjà passé ou qui passent en ce moment, ou qui vont passer par un temps difficile, qui est à peu près 100% de nous. Vous êtes d'accord? À part de notre salut, la seule autre chose que nous avons tous parfaitement en commun dans cette grande église multiculturelle, multigénérationnelle, multiclasse sociale, les seules choses que nous avons en commun à part du salut, c'est le fait que nous avons où nous allons faire face, un moment ou un autre, à la déception, tous et chacun, à la douleur, à un moment difficile, à une situation incompréhensible, blessante, possiblement inattendue. C'est pour cela que ce message est pour tous et chacun de nous ce matin. C'est une parole que j'appelle « de la poussière à la promesse ». Et Dieu a une promesse pour vous ce matin. Est-ce que vous le croyez? C'est tiré d'un passage renommé de la Bible. C'est tiré de la promesse qui était donnée à Abraham, une des grandes promesses de la Bible. C'est une promesse de bénédiction et d'abondance. C'est une promesse, c'est une parole de vie. Et moi, je suis convaincu que Dieu a une parole pour vous ce matin, comme qu'il avait pour Abraham dans cette histoire qui est trouvée en Genèse chapitre 13. Pour ceux qui ont leur Bible, c'est Genèse 13, 14 à 17. Sinon, le passage va être sur l'écran. Et j'aimerais qu'on puisse, quand on lit le passage, qu'on porte attention non seulement aux paroles qui sont dites ou à la promesse, mais qu'on porte attention aussi au contexte, le contexte autour de cette promesse-là. Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, dans un contexte de séparation, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, regarde vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Vous voulez savoir c'est quoi la parole de Dieu pour vous ce matin? La parole pour vous ce matin, c'est la main qui était donnée à Abraham. C'est « Levez les yeux du lieu où vous êtes ». Comme qu'a dit Abraham, « Où tu es, Abraham, lève tes yeux ». Dieu nous dit la même chose ce matin. Je ne sais pas où vous êtes ce matin, dans quel lieu que vous vous trouvez, mais Dieu vous dit, peu importe le lieu dans lequel vous vous trouvez ce matin, Dieu vous dit, levez les yeux, regardez, que vous soyez dans un lieu bien ou mal, que vous soyez dans un lieu de défaite ou de victoire, de prospérité ou de pauvreté, de force ou faiblesse, Dieu vous dit, levez les yeux, regardez et écoutez. Parce que Dieu a une parole pour vous. Où vous êtes, là, en ce moment, reçois la parole, reçois la promesse de la part de Dieu. Même si vous avez l'impression que vous êtes debout dans la poussière, comme Abraham était. Même si vous avez l'impression d'être dans un lieu de désespoir. Il faut comprendre qu'Abraham a reçu la parole quand il était debout dans la poussière. Alors, même si vous êtes dans un lieu de désespoir, un lieu sec, un lieu seul, un lieu difficile ce matin, levez les yeux, reçois une promesse de la part de Dieu. Ce qui m'intrigue de cette histoire, qui capte mon attention, n'est pas la promesse comme telle, malgré que c'est magnifique, ce n'est même pas quand que la promesse était donnée ou à qui la promesse a été donnée. Mais qu'est-ce qui m'intrigue de cette histoire? C'est plutôt l'endroit de la promesse, les circonstances dans lesquelles la promesse a été donnée. Dans quel lieu que Dieu dit ses paroles à Abraham? Lève les yeux! Est-ce que c'est un lieu parfait? Est-ce que c'est un lieu idéal? Est-ce que c'est un lieu facile? Est-ce que c'était le paradis? Est-ce que Dieu a dit à Abraham, « Regarde, Abraham, toute la beauté autour de toi. Regarde l'abondance, la verdure autour de toi. » Non, quand il dit « Regarde, Abraham », c'était plutôt un lieu désert. C'était un lieu de déception, un lieu de division, où Abraham se trouve seul avec les restes, avec les restants. C'était un lieu de séparation. On a remarqué que l'Éternel a donné cette promesse à Abraham après que Lot se fut séparé de lui. C'est un lieu de déchirement, c'est un lieu difficile. Pour vous donner un peu le contexte de cette promesse, vous le connaissez l'histoire sûrement, Abraham se trouve dans le désert par rapport à une division avec son neveu Lot. Abraham et Lot étaient ensemble depuis plusieurs années, mais ils se trouvent dans un moment de chicane et conflit à un point où ils n'avaient pas assez de place sur la terre pour les deux. Genèse chapitre 13 le décrit de cette façon-là. « Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. » Imaginez, avez-vous déjà été dans un endroit ou dans un conflit tellement intense où ce que vous dites, « Il n'y a pas assez de place dans le pays pour nous deux. » Il n'y a pas assez de place sur la terre. Il n'y a pas assez de place dans la ville pour nous deux. Ça nous dit qu'il n'y avait pas assez de place dans la contrée pour Lot et Abraham. La chicane était tellement sévère. C'est un peu comme les États-Unis et la France. On a l'impression qu'il n'y a pas assez de place sur la terre pour ces deux pays-là. Ils sont toujours en chicane. C'est un peu la même chose avec Lot et Abraham. Il n'y a pas assez de place ici dans la contrée pour nous. Quelle parole, quelle image de cette séparation et ce conflit qui était sévère. Abraham et Lot font face à une séparation inévitable. Quand on lit l'histoire, on trouve ces mots, querelle, dispute, séparation, conflit. Alors, à cause du conflit, Abraham, il donne le choix à Lot. Il dit, il faut qu'on se sépare. C'est trop difficile ensemble. Alors, il donne le choix à Lot. Quel côté du pays que tu veux? Il y avait un côté qui était un côté du luxe. C'était la vallée du Jourdain d'un côté, et l'autre côté était le désert. Et comprends quelque chose, Lot, c'est le plus jeune, c'est le neveu d'Abraham, c'est un homme qui devait beaucoup à son oncle, mais dans son égoïsme, dans son égocentricité enfantin, il choisit le pays fertile, le luxe, le lieu arrosé, abondante. Et dans le contexte culturel du temps, c'était un acte de mépris, c'était un manque de politesse, c'était un manque de respect envers son ancien, envers le patriarche. C'était un choix égoïste et charnel et un manque de considération pour son oncle, pour son ancien. Il faut comprendre un peu la déception d'Abraham. Abraham est humain. Abraham avait les yeux. Il avait des désirs. Abraham aura voulu aussi le meilleur. Il aura voulu que Lot fasse le bon choix. Peut-être qu'il a regretté même d'avoir donné le choix à Lot, qui sait. Mais lui aussi voyait le potentiel. Lui aussi voyait l'abondance. Lui aussi voyait le fruit. Ça nous dit en verset 10, quand ça décrit la terre que Lot a choisie, c'était un lieu entièrement arrosé. C'était le jardin de l'Éternel, en verset 10. Imagine, le jardin de l'Éternel. Abraham aura pu avoir le jardin de l'Éternel. Il aura pu avoir le paradis, mais il se trouve plutôt dans le désert. Et le désert, c'était un vrai désert. Pasteur Claude et moi, on l'a visité il y a quelques semaines quand on était en Israël. On a quelques images sur l'écran pour vous. Et c'est dans cet endroit-là que Lot se trouve, dans le désert, au lieu d'être dans le jardin de l'Éternel. C'est ici qu'il se trouve, dans un lieu sec et difficile et seul, dans le désert, dû au choix d'un autre, à cause d'un autre, à cause de Lot, dû au choix et action des autres, dû à un chicane et un conflit, une division dans l'équipe, une rupture, une séparation inattendue. Abraham se trouve dans un lieu difficile avec le reste, les restants. Il est seul, déçu, il est probablement déjà fatigué quand il pense aux défis qui sont devant lui. « Je suis dans le désert ». Ça va être trois fois le trouble et l'effort pour produire quelque chose. Comment que je vais réussir ici, dans le désert? Comment que je vais arriver? Il est entouré de poussière et ce n'est même pas sa faute. C'est une situation pour le rendre mal au cœur. Proverbe chapitre 13, verset 12, ça nous dit, « Un espoir différé rend le cœur malade. » Ça veut dire qu'Abraham était écœuré littéralement. Il avait mal au cœur à cause de la situation parce que c'était un espoir différé. C'était une situation difficile. Et c'est ici, là, dans cet endroit, que Dieu dit à Abraham, dans un moment de déception, de séparation, il y a la poussière, il est fatigué. Dieu, c'est dans cet endroit-là que Dieu lui dit, « Lève tes yeux, lève ta tête, Abraham. » J'imagine c'est parce qu'Abraham avait la tête basse et il regardait autour de lui puis il voit rien que le sable et la poussière pour des milles de milles. Et il dit, il regarde autour de lui pour dire, je suis pris avec ça, avec la tête basse. Et c'est pour ça qu'il dit à Abraham, ne te promène pas avec la tête basse, lève les yeux, lève ta tête. J'ai une promesse pour toi, une promesse de postérité, prospérité, un héritage, une bénédiction, un avenir. Il a reçu une promesse dans la poussière. Et si Abraham a reçu une promesse dans un lieu difficile, nous aussi, quand on est dans un lieu difficile, Dieu a une promesse pour nous. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? C'est là qu'il a reçu la promesse. C'est pour cela que Dieu a servi comme illustration la poussière. Vous remarquez dans la promesse qu'il a donnée, deux fois, Dieu parle de la poussière comme illustration, comme exemple. Et j'imagine qu'Abraham, probablement Abraham, avait même la poussière entre ses mains. J'imagine qu'il a pris la poussière du désert et il dit, c'est rien que ça que j'ai. J'ai la poussière entre les mains, puis il faut faire quelque chose avec ça. C'est pour ça que Dieu dit, deux fois, il sert de la poussière. Il dit, avec la poussière, je vais te bénir. Il dit, je vais te bénir. Tu vois toute la poussière qui est autour de toi? Moi, je vais te bénir avec un peuple plus nombreux encore que la poussière. Ça veut dire que Dieu se sert littéralement de sa situation, la source de sa peine, pour démontrer sa puissance. Il se sert de qu'est-ce qu'Abraham avait entre ses mains pour démontrer sa puissance et parler de la bénédiction. Il a parlé à Abraham dans sa réalité, dans ses difficultés. Combien sont heureux que Dieu n'a pas besoin d'une situation idéale pour accomplir ses promesses. Dieu nous parle dans la réalité de la vie, il nous parle dans notre réalité, il nous parle à travers les difficultés. Il dit, je sais que vous êtes dans une situation difficile, mais moi je suis capable de renverser ça en bénédiction. C'est la puissance du Seigneur. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Dieu parle dans la réalité, dans notre réalité. Même quand on n'a rien que la poussière entre nos mains, Dieu dit, tu t'inquiètes pour la poussière, moi je vais te bénir au-delà même de la poussière qui est entre tes mains. Il parle à Abraham dans la réalité de sa situation. Dieu peut prendre les pires moments de nos vies, les renverser en promesses et en puissance. Des fois, nous avons l'impression que nous n'avons rien que la poussière entre nos mains. Des fois, nos rêves, nos ambitions, nos plans sont réduits à ça, à la poussière. Par les actions des autres, souvent. Par la décision des autres, c'est même pas notre faute. Peut-être par un chicane, un conflit, le mépris. Par un choix charnel de quelqu'un d'autre, une épouse, un époux, un adolescent. Parfois, c'est nos propres erreurs. Nous avons des regrets pour les choses qu'on a faites, puis on se trouve dans le désert, déçu, seul, rejeté avec les restes, avec les miettes. Ça peut être côté familial, côté financier, personnel, physique. C'est la réalité de la condition humaine depuis Adam et Ève. D'être blessé par les actions d'un autre, c'est humain. Si jamais on a été maltraité, si jamais on a subi une injustice, bienvenue à la race humaine. Ça fait partie d'être humain, ça. L'homme a la capacité de faire mal à l'homme. Combien sont d'accord que la vie sera facile si ce ne serait pas pour les gens? L'Église sera parfaite si ce ne serait pas pour les gens. Mais des fois, les gens nous blessent. C'est l'être humain. C'est arrivé avec Abraham et Lot et d'autres. Ça peut être peut-être une situation familiale qui est loin d'être idéale. Comme Abraham avec Lot, chicane dans la cabane, divorce, séparation, le rejet, chicane, la mort. On vit des situations difficiles, parfois par les choix des autres ou par nos propres choix. La stupidité est encore possible. Ou par le choix des autres, un conjoint, employeur, un ado, un ami. Des fois, c'est par la réalité. On se trouve dans le désert par la réalité de la vie, point. C'est un accident, un baloc, un changement inattendu. Non par notre désir, mais leve-là ce que je suis dans une situation difficile et c'est juste comme ça, par hasard. Des fois, vous avez l'impression qu'après toutes ces années, il vous reste pas grand-chose entre les mains. Comme Abraham, qui avait rien que la poussière entre les mains. Puis la poussière, il y a rien plus mort que la poussière du désert. C'est sec et stérile. Et c'est là que Dieu commande la bénédiction. C'est là que Dieu lui donne une parole. C'est là que Dieu lui donne une promesse. Une promesse de possibilité dans l'impossible. Et quand je vois ça, ça m'encourage. Même si parfois j'ai l'impression j'ai les deux pieds dans la poussière. Dieu est capable de me donner une promesse qui va renverser la poussière en prospérité et bénédiction. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Dieu nous parle dans la poussière. Il y en a qui vont dire, « Pasteur Mark, ma situation est pire que la poussière. Tu connais pas ma situation. Moi, je suis debout dans une poussière qui dégage une mauvaise odeur. » Vous savez c'est quoi ça? Non, moi, c'est pas la poussière. Moi, c'est vraiment plus grave que ça. Moi, j'ai un verset pour vous. C'est le psaume 113, versets 5 à 8. Écoutez ce que David y dit au sujet de Dieu. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse le regard sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Parfois, on a les deux pieds dans la poussière. Autrefois, on a les deux pieds dans le fumier, qui est encore pire. Puis le fumier, c'est juste une belle façon de dire la merde. Quelqu'un me dit à la réunion de 9h, « Pasteur Marsh, tu ne devrais pas dire la merde sur la plateforme. Tu devrais dire la marde. » Mais j'ai trop de classe pour ça. Dans le fond, c'est ce qu'il est en train de dire. Des fois, c'est la poussière, des fois, c'est le fumier. Peu importe que ce soit la poussière ou que ce soit le fumier, si vous avez les deux pieds dans la... Donne à Dieu une chance. Dieu est capable de vous relever. Dieu est capable de vous restaurer. Dieu est capable de vous retirer de la... Hein, puis vous aider dans la poussière. Parce que ces fois, c'est la vie. On a l'impression qu'on a mis les deux pieds dedans et on est sans espoir. Que ferai-je? Mais David, si c'est votre situation, David, vous avez en tête. Il pensait à vous. Il dit, c'est pas rien que la poussière. Même le fumier, même quand c'est une mauvaise odeur, même quand la situation peut à ton nez, Dieu est capable de faire quelque chose. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. C'est ce qu'il a fait avec beaucoup parmi nous. Dieu restaure même quand c'est difficile. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? C'est la nature de Dieu. C'est ce que la nature nous enseigne, mais que Dieu est un Dieu comme ça. La création nous enseigne cela au sujet de Dieu. Un Dieu qui est capable de faire tout de rien. Quand on regarde la nature, la beauté, peut-être vous avez pris du temps cet été pour aller au chalet, jouer au golf, prendre une marche ou quelque chose comme ça, sur les montagnes, vous avez admiré la beauté de la création que nous avons, la beauté de la nature et de l'univers et la terre. Mais vous savez que Dieu a créé toute cette beauté-là à partir de rien, avec rien que la poussière. C'est qui il est. Quand on voit la nature, on remarque que Dieu fait des grandes choses avec petites choses. Parlez aux hommes pour un instant. Les hommes, vous vous pensez beaux et merveilleux? Je sais que quand Patrick Sinette, il se regarde dans le miroir le matin, il dit « Wow, magnifique! » Ah, les hommes, vous vous pensez bien et magnifique et merveilleux, mais vous savez que vous avez été créés à partir de la poussière. C'est pas grand-chose. Et les femmes, Dieu a faites à partir de l'homme, qui est encore pire. Tous les femmes disent... Alors, Dieu a fait l'homme à partir de la poussière, il a fait la femme à partir de l'homme. Ça veut dire que Dieu est capable de faire des belles choses à partir de rien. C'est Dieu. C'est un principe de la nature, la cultivation, la création, que tout pousse de la terre. La création est formée de la terre, la boue, la vie sort de la terre. Printemps, ici au Québec, on implante nos petites semences dans la terre. Mais même ça, ça suffit pas. On va ajouter d'autres terres. On va ajouter le fumier pour que ça soit encore meilleur, plus fort et plus beau. Pensez-y, on entoure tout cela, la semence de la terre et le fumier, parce qu'on sait qu'il va pousser quelque chose de bien et de beau. C'est la création que Dieu a créée pour dire que Dieu est capable de créer quelque chose de bien à partir de rien. Pour combien? Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci Seigneur, c'est jamais désespéré avec toi. Puis combien de témoignages que nous avons ici à l'église ce matin, on pourra parler à un, puis un autre, et un autre, et un autre, puis probablement des centaines de témoignages ici, des gens qui ont découvert Dieu quand ils étaient dans la poussière, désespérés, au fond du baril, ils n'avaient plus d'espérance pour leur vie, mais là, Jésus les a trouvés, ils ont découvert Dieu, Dieu les a donné une promesse, et Dieu a renversé la poussière dans la bénédiction. On a, si on aura le temps, il y aura des centaines de témoignages ici, qui vont dire, oui, c'est vrai, j'avais rien, j'étais entouré de rien, mais Dieu m'a trouvé, il m'a béni, il m'a sauvé, il a restauré ma vie et ma joie. C'est qui Dieu est? C'est la grâce du Seigneur et ça mérite une bonne main d'applaudissement. Merci Seigneur pour ces témoignages. Merci pour cette grâce. Merci Seigneur que tu m'as trouvé aussi dans la poussière et tu m'as béni. C'est qui Dieu est? Et ça nous encourage de ne pas voir le présent, mais de voir le potentiel, de croire que Dieu va faire quelque chose de rien avec les circonstances les moins idéales. Dieu est capable de bénir même dans les pires situations. Et non seulement que Dieu est capable de bénir dans les pires situations, mais j'ai l'impression que Dieu préfère de bénir dans les pires situations. C'est ce qu'il a fait avec Abraham, c'est typique de Dieu. Il vient nous chercher dans les pires moments, des moments impossibles, et nous dit, « Lève tes yeux, regarde maintenant, c'est moi qui vais agir. » Plus qu'une fois, nous voyons ça dans la Bible. On prend juste l'histoire d'Agar. Si on aura le temps, on pourra voir l'histoire de Agar trouvée en Genèse chapitre 16 et Genèse chapitre 21. Deux fois Agar, elle est rejetée par Abraham et Sarah. Deux fois, la servante d'Abraham est renvoyée dans le désert, enceinte en plus. Ça nous dit en Genèse chapitre 16, Genèse chapitre 21, que l'ange de l'Éternel trouva chaque fois qu'elle était méprisée, chaque fois qu'elle était rejetée, chaque fois qu'elle se trouvait dans le désert. Et Genèse chapitre 21, ça nous décrit une situation pénible où ce qu'elle est là avec son enfant, puis elle va mourir dans le désert, puis elle a rien à boire. Alors elle laisse son enfant là pour mourir, puis elle va près d'un arbre pour mourir aussi dans le désert. Mais ça nous dit que Dieu l'a entendu son cri. Dieu l'a entendu dans son affliction. Dieu l'a vu dans sa misère et Dieu l'a visité et Dieu l'a béni. On a l'histoire d'Agar, deux fois rejetée, deux fois Dieu la visite pendant qu'elle est entourée du désert. Aucun espoir, mais Dieu est attiré vers son affliction. Ça, c'est l'histoire d'Agar, c'est l'histoire d'Abraham. C'est l'histoire surtout de Léa. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de Léa. Léa et Jacob dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 29. Ça nous parle de l'histoire de Léa. Une des histoires probablement le plus triste dans la Bible, quand on parle de psychologiquement puis socialement pour cette femme Léa. Parce que c'est une femme qui est continuellement comparée avec sa sœur Rachel. Puis on a une des histoires un peu le plus énigmatique et triste dans l'Ancien Testament. Puis on voit un peu une capsule de la vie de Léa en Genèse chapitre 29. Ça nous dit, versets 16 à 18, « Or Laban avait deux filles. L'aînée s'appela Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Imaginez grandir avec ces comparaisons toute votre vie. Léa était comme ça, mais Rachel était belle. Imaginez de toujours avoir le contraste, toujours avoir la comparaison, toujours être comparé avec l'autre et toujours mis à côté de l'autre. Ça, c'était le sort de Léa. Ça dit que Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle. Vous voulez savoir ce que ça veut dire sur les yeux délicats? Les yeux délicats veut dire, si on regarde littéralement en hébreu, elle avait des yeux faibles. Ça veut dire comme ça. All right? On appelle ça un euphémisme. C'est une façon de dire quelque chose désagréable d'une façon plus agréable. Alors, au lieu de dire « mais Léa était laide », il disait « mais Léa avait les yeux délicats ». Mais si on regarde en hébreu, ça veut dire tout simplement « Léa était laide, mais Rachel était belle ». Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dit que vous avez des yeux délicats, vous allez savoir pourquoi. Contraste flagrant qui a sûrement donné des sentiments de rejet, blessure, de comparaison avec Rachel toute sa vie. Puis tellement angoissée par cela que elle marie, vous connaissez l'histoire, elle arrive à marier Jacob par la ruse. Elle manigance quelque chose avec son père parce que Jacob, tout de suite, il voulait rien savoir de Léa, mais il voulait Rachel. Mais c'était pas normal qu'il ne marie pas Léa parce que Léa était l'aînée, c'était la plus vieille et normalement, selon la coutume, il fallait toujours marier la plus vieille avant la plus jeune. Mais lui a dit, je veux rien savoir d'elle, c'est Rachel que je veux. Blessé au cœur, c'est certain. Et là, il fallait qu'elle manigance quelque chose et une ruse parce qu'elle pense que c'est sa seule chance. Alors, nous avons ici le lendemain, alors elle arrive à marier Jacob, elle arrive à passer la nuit avec Jacob, et là, puis Jacob pense c'est Rachel, puis là, ça nous dit en Genèse chapitre 29, diapo 16, ça dit le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, mais c'est pas la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Alors, par la ruse, c'est Léa qui marie au lieu de Rachel. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. J'imagine probablement qu'elle a mis une voile pendant la cérémonie, et là, ben Jacob pensait que c'était Rachel, et après ça, peut-être à la réception, Jacob il a bu un petit peu trop de vin, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, et là, Léa, elle a mis le maquillage très, très, très épais sur le visage. Puis là, Jacob, il passe la nuit avec Léa. C'est juste le lendemain matin Pas de maquillage. Dans la lumière du soleil. Il regarde, puis ah! C'est pas la dernière fois que c'est arrivé, ça, hein? Ah! Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas toi que je voulais! Qu'est-ce que t'as fait à moi? Là, il parle à son père, puis il dit, qu'est-ce que t'as fait à moi pour me tromper là-bas? C'est pas elle que je voulais. On peut rire de ça, parce que c'est un peu comique comme histoire. Mais imagine, mettez-vous à la place de Léa. Nous, on peut rire de ça, mais pour Léa, c'était sérieux, c'était vrai, c'était sa vie, c'était son avenir. Elle était tannée de toujours être comparée avec Rachel. Et là, elle dit, cette fois-ci, c'est moi qui vais se marier. Mais là, quand il se réveille, elle a pensé peut-être gagner son amour pendant la nuit, mais le matin, elle a pas réussi, puis il dit, c'est pas elle que je veux, c'est l'autre que je veux, et je vais travailler pour l'autre. Et en Genèse 29, 30, ça dit, Jacob allait aussi vers Rachel parce qu'il l'aimait plus que Léa. C'est l'autre que je veux. C'est des paroles blessantes. Ça peut être comique un peu, mais pour elle qui l'a vécu, c'était blessante. Il faut se mettre à sa place. Elle aussi, elle voulait être aimée. Elle aussi, elle voulait être acceptée. Elle espérait de changer l'idée de Jacob, mais c'était le contraire. Et c'est littéralement, quand on voit le contexte, il aimait Rachel, mais il haïssait ou négligea Léa. Là, Léa est là, puis elle pense, elle est rejetée encore, blessée encore. Elle a encore perdu à Rachel, qui semble être la vedette. Et c'est là qu'on trouve Léa, en Genèse chapitre 29, mais c'est là qu'on voit encore Dieu. Dieu, elle pense être abandonnée, et elle se trouve seule, humiliée, rejetée. Un vrai candidat pour le suicide ou pour l'amertume, supposément abandonné par tout le monde, moqué, ridiculisé. Mais c'est ici qu'on apprend quelque chose de la nature de Dieu, que Dieu n'abandonne pas ceux dont l'homme a abandonné. Dieu est là pour ceux qui sont affligés. Et on le voit ici en Genèse 29, 31, 35. Encore une autre fois, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il voyait le rejet, il voyait la blessure, il voyait le cœur brisé. Il a vu que Léa n'était pas aimée. Puis la rendit féconde. Léa devint enceinte, enfanta un fils à qui elle donnait le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle voulait toujours l'amour de son mari. C'est triste comme histoire. Puis elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi car je lui ai enfanté trois fils. C'est pourquoi qu'on lui donna le nom de Lévi. Dernièrement, elle a enfin encore un autre enfant. Elle est encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. On apprend quelque chose de la part de Dieu. Ici encore, Dieu est près de ceux qui souffrent. Dieu a vu Léa et Dieu l'a béni. Comme qu'il a béni Agar, comme qu'il a béni Abraham, Dieu l'a béni dans son affliction. Et normalement, si vous êtes moi, si je mets Léa et Rachel l'une à côté de l'autre, il y a une qui est belle, Rachel est belle, elle est en santé, elle a un beau mari qui l'aime, elle est tellement populaire, tout tombe en place pour Rachel. Si vous êtes comme moi, moi je dirais, ça c'est une femme bénie. Ça, elle a la bénédiction de Dieu sur elle, parce qu'elle a tout. Elle a le charisme, le charme, la richesse, glamour. On dirait, ça, c'est une femme bénie. Sûrement, Dieu est avec elle. Parce que ça, c'est la façon que nous, on voit des choses. Nous, on juge selon les standards des hommes. Si tout est bon et parfait, est en place, richesse, charisme, glamour, popularité. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Mais Dieu voit d'une autre façon. Il est à la recherche pour ceux qui sont rejetés, brisés, méprisés. Il est ami des pauvres et des pécheurs. Et nous, on va dire, mais c'est elle, Rachel, qui est bénie. Mais dans l'histoire ici, c'est pas Rachel qui était bénie, c'est Léa qui était bénie. Parce que Dieu aime la personne que personne d'autre aime. On appelle ça la grâce infinie de notre Seigneur. Et ça mérite un amen. Dieu est près de ceux qui souffrent. Dieu vit que Léa n'a pas aimé, il l'a béni. Le Seigneur t'a attiré vers ceux qui sont brisés. Le Seigneur voit ceux qui sont affligés, humiliés. Jacob l'a haï, Léa, mais Dieu l'a aimé. Les premiers sont les derniers et les derniers ici-bas sont les premiers avec Dieu. Léa était la dernière sur la terre face au monde, mais était la première avec Dieu. C'est la grâce du Seigneur. Nous, on pense que Dieu est prêt à des hommes de succès, de personnes belles, populaires, glamour, charisme, c'est la bénédiction. Mais la Bible dit que Dieu est prêt à des veuves, des orphelins, des indigents, des gens qui souffrent. Ne pensez jamais que vous êtes abandonné parce que vous passez par un moment difficile. Quand vous êtes dans un moment difficile, ne levez pas votre poignet vers Dieu pour dire, « Dieu, qu'est-ce que tu fais avec moi? Tu m'as abandonné. Je passe un moment difficile. C'est une injustice. Tu m'as abandonné. Où es-tu, Seigneur? » Ne dites jamais ça. Si vous passez par un temps difficile, ne pensez jamais que Dieu t'a abandonné. Au contraire, vous êtes un candidat pour la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Il est proche de vous. Il vous abandonne jamais. Dieu ne juge pas comme le monde. Qu'est-ce qui attire le monde n'est pas nécessairement qu'est-ce qui attire Dieu. Dieu n'est pas impressionné par l'apparence, beauté, popularité, charisme, habileté. C'est le contré, brisé, abattu qu'attire Dieu. Isaïe 57, verset 15. « Car ainsi par le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contré et humilié. » N'est-ce pas ça un bon verset? Hein? J'habite dans les lieux élevés, mais je suis présent avec les personnes abattues. Le psaume 34, 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. J'aimerais vous demander quelque chose. J'aimerais vous demander de ne pas mépriser les situations dans votre vie qui brisent votre cœur. J'aimerais vous demander de ne pas mépriser de ne pas avoir la colère et la haine pour des personnes qui vous traitent, maltraitent ou traitent injustement ou qui vous font souffrir ou qui vont vous humilier et qui vous met un peu dans une situation de désert. Je vais vous demander de ne pas avoir la colère ou la rancune ou la vengeance pour ces personnes-là, mais plutôt les remercier pour dire « Tu m'as mis dans une situation où ce que je suis un candidat pour la bénédiction. » Et au lieu d'être rempli de colère, dis « Seigneur, me voici, tu vois qu'est-ce qui est arrivé, j'attends maintenant la promesse et la parole et ta bénédiction. » Ne méprise pas ces choses-là, mais laisse le Seigneur les renverser pour votre bénédiction. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Le Très-Haut est avec vous. Ne pensez jamais parce que vous passez un temps difficile que vous êtes rejeté, seul ou mal compris, que Dieu vous a abandonné. Au contraire, Dieu est près de vous. Les difficultés de Léa, son rejet, tristesse, l'abandonnement a brisé, son cœur brisé a attiré l'attention de Dieu et l'a rendu féconde et béni. Dieu a béni Agar, Dieu a béni Abraham dans la poussière, il a béni Léa. Puis remarque ici qu'à un moment donné, il y avait une transformation dans le cœur de Léa. Elle a appris quelque chose. Elle a compris quelque chose. Parce que trois fois, Dieu le voit dans sa douleur. Trois fois, Dieu le bénit. Parce qu'il essaie d'attirer son attention sur lui au lieu de son mari. Car le cœur de son mari n'a pas changé. Puis elle voulait toujours avoir son amour. On l'a remarqué dans l'histoire. Cette fois-ci, il va l'aimer. Cette fois-ci, il va s'attacher à moi. Là, je vais le gagner, parce que c'est pitoyable. Elle voulait toujours, toujours avoir l'amour de l'autre, l'amour de l'autre. Là, ça va marcher. Là, il va changer. Là, ça va être différent. C'était la douleur de vouloir toujours être aimé. Toujours. Mais était constamment rejeté et blessé. Elle pensait qu'elle pouvait changer Jacob, ses actions, mais elle ne pouvait pas. Puis, comprenez, jamais oublier. Parfois, on ne peut pas changer les autres. Et souvent, la pression, on met la pression, puis on dit, mais il faut que les autres changent. Puis on essaie de changer les circonstances et les personnes pour nous donner le bonheur et le contentement. Mais il faut arriver à un point comme Léa, que quand qu'ici, ça nous dit, à la fin, elle a dit sept fois. C'est toute une déclaration ici en Genèse 29. Sept fois, elle n'a pas dit, mais là, ça va marcher avec Jacob. Sept fois, elle dit que ça marche ou ça marche pas avec Jacob, qu'il m'aime ou qu'il m'aime pas. Ça fait aucune différence. Sept fois-ci, je vais louer. Louer l'Éternel. Je vais adorer le Seigneur parce que je comprends que je suis aimé et accepté et approuvé par lui. Et là, tout d'un coup, après ces années-là, sa joie, sa raison d'être ne dépendait plus sur les circonstances, ne dépendait plus sur Jacob. Elle était plus tout simplement satisfaite par Jacob, mais était satisfaite et comblée dans la présence de Dieu et dans la louange et l'adoration. Son but était de changer Jacob au lieu de changer sa propre façon de penser. Et là, elle est venue à la place où ce qu'elle a dit, je ne laisserai pas une autre personne ou les actions d'une autre personne affecter ma joie. Elle a appris à dire, peu importe les circonstances, je vais louer et adorer le Seigneur. Elle a changé son attitude. Elle dit, Dieu est là, il m'a pas abandonné, il m'aime, je louerai l'Éternel. Je vais être un adorateur de Dieu. Je vais fixer mes yeux sur Jésus. Ma joie ne dépend pas sur lui ni les circonstances. Et le quatrième enfant qu'elle a enfanté, une fois qu'elle a dit, je vais louer l'Éternel, savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Elle a enfanté Judas. Judas veut dire louange à l'Éternel. Et 2000 ans plus tard, Christ est né de la tribu de Judas. Elle a enfanté la ligne de Jésus par la louange et l'adoration et l'action grâce. Et nous avons tous un choix à faire, tous et chacun. En arrière de la salle, ici en avant, ici sur la plateforme, nous avons tous un choix à faire. La prochaine fois qu'on est maltraité, on subit la difficulté, on passe au moment de désert, on a subi une injustice, on a le cœur brisé, nous avons tous un choix à faire. Soit on peut être amer, on peut être rempli de rancune, de colère, de vengeance, on peut devenir quelqu'un qui devient amer et agressif, ou nous pouvons faire comme Léa. Peu importe les circonstances, je vais louer le Seigneur, je vais lever ma tête, je vais lever mes yeux et ma voix, et cette fois-ci, je louerai le Seigneur, parce que je sais qu'il va me bénir comme qu'il a béni Léa. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? C'est votre choix. Les personnes qui portent l'amertume, la rancune et la colère pour des années et des années, ça devient comme le béton dans leur esprit et leur cœur. Moi, je vous demande ce matin d'abandonner cela, de pardonner les personnes, de louer le Seigneur et dire, Seigneur, donne-moi une promesse qui va renverser ces sentiments-là en bénédiction. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? C'est un choix que vous avez. Abraham l'a fait, Agar l'a expérimenté, Léa l'a compris. Moi, je crois que si Christ va être né dans notre communauté, si on va donner naissance à Jésus d'une façon parlée, à Christ, réveil dans l'Église et la ville et parmi la francophonie, ça va être quand qu'on devient un peuple, peu importe les circonstances, les situations, nous allons louer, adorer le Seigneur, marcher dans la victoire, la joie, la confiance, parce que nous savons que Dieu est toujours avec nous, Dieu est près de ceux qui souffrent, notre joie ne dépend pas sur les autres ni les circonstances, et la louange fait toute la différence. Je suis un candidat pour la bénédiction, je vais adorer le Seigneur. Pourquoi adorer, Pasteur Mark? Pourquoi louer, chanter, malgré notre situation? C'est un paradoxe, c'est une énigme. Parce que nous sommes convaincus que Dieu nous voit, que Dieu porte attention à nous, que Dieu a une parole pour moi dans mes circonstances, que Dieu est capable. On adore le Seigneur même quand on est dans la poussière, parce qu'on sait que Dieu est capable de manifester la puissance dans la poussière. Il est capable de produire la vie dans la mort. Il est capable de créer quelque chose de toute beauté avec rien. C'est pour ça qu'on adore, c'est pour ça qu'on loue le Seigneur, c'est pour ça qu'on marche avec la tête levée et les yeux vers le Seigneur. Dans la conclusion, qu'est-ce qu'il a fait? Abraham, Genèse chapitre 13, verset 18, à la fin de l'histoire, quand il a reçu la parole, ça nous dit en Genèse 13, 18, « Et il a bâti là un autel à l'Éternel. » Meilleure chose qu'on peut faire, on bâtit un autel à l'Éternel. Il a scellé la promesse avec une prière, un acte de foi, l'adoration. « Je refuse d'être découragé par la poussière. » Refuse d'être découragé par les circonstances ou le rejet. Je refuse l'amertume, rancune, d'être la tête basse, la crainte ou la honte. Je vais lever mes yeux, je vais lever ma tête, je reçois la promesse, je vais bâtir un autel au Seigneur, je vais louer et l'adorer parce que je sais que le Seigneur va me bénir dans mes circonstances. Même aujourd'hui, quand la terre est ébranlée par la terreur et la guerre et la maladie et la famine, et on semble avoir des problèmes partout. Pasteur Mark te dit, marche la tête haute, les yeux levés dans la confiance et la joie, applaudis, souris, réjouis, adore. Même aujourd'hui, on est bombardé de mauvaises nouvelles. Oh, c'est pas moi qui vous dis ça, c'est Jésus. En Luc chapitre 21, puis je termine avec ça, j'invite les musiciens de s'approcher. Jésus a dit ses paroles renommées en Luc 21, verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Quand ces choses arrivent, de quelles choses qui parle Jésus? Quand tu reçois des bonnes nouvelles, levez votre tête. Quand tout est idéal dans votre vie, levez votre tête. Quand vous êtes dans le paradis, levez votre tête. Est-ce que c'est ça le contexte? Non. Jésus a dit, quand que ça va mal, levez votre tête. Vous voulez savoir c'est quoi le contexte de ces paroles-là en Luc 21? On va se lever tous ensemble, je vais les lire pour vous. Par la suite, on va juste avoir passé dans un moment de louange, d'adoration. Dans quel contexte que Jésus a dit, quand que ces choses arrivent, de quelles choses qu'il parlait? Je vais les lire quelques-uns pour vous en Luc 21, verset 5. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple de Jésus a dit, les jours viendront où tout ce que vous voyez ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera pas renversé. C'est des gens qui étaient impressionnés par toutes les belles choses. Et Jésus a dit, un jour, ces choses-là n'existeront pas. Ça va être pierre sur pierre. Puis là, il continue. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Une nation s'élèvera contre une nation. Ça semble-tu à aujourd'hui, ça? Un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre. Il va y avoir des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles. Combien croient qu'on vit dans un moment de phénomènes terribles? On a l'impression à chaque semaine quand on met les nouvelles, il y a un autre phénomène terrible qui se passe. Ça, c'est le verset 11, le verset 12. Et il va y avoir des moments de persécution. Verset 20, il parle de la désolation. Verset 22, les jours de vengeance. Verset 23, il y aura des grandes détresses dans les pays et il va avoir le colère, puis il va avoir l'épée et la captivité et les nations qui vont être foulées sur les pieds. Dans le verset 24, verset 25, il y aura de l'angoisse chez les nations et qui ne saura que faire? Ils vont dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ça semble aujourd'hui ça, oui ou non? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi la solution? On a des phénomènes terribles. On a des nations l'un contre l'autre. Les politiciens, les gens qui gouvernent les pays, ils n'ont pas la réponse. Ils ne savent pas quoi faire. C'est quoi la solution pour la guerre, la famine, les pestes, pour le fléau de sida qui ravage l'Afrique, pour les problèmes de le Moyen-Orient, pour les terreurs, les terroristes? Que ferons-nous? Jésus a prophétisé de ces jours-là. Ça va arriver où ce qu'ils vont dire, on n'a pas de réponse. Que ferons-nous? Il dit, oh, la terreur. Il dit, les hommes rendent la lampe de terreur dans l'attente de ceux qui souviendront sur la terre que la puissance des cieux seront ébranlées. C'est les choses qu'on vit aujourd'hui. Puis c'est après tout cela que Jésus, après avoir décrit toutes ces choses-là, il dit, quand ça arrive, il n'a pas dit, cours, cachez-vous, marchez la tête basse, panique. Il dit, quand toutes ces choses-là arrivent, il a dit, c'est là qu'il a dit, quand ces choses commenceront à arriver, il n'a pas dit de courir, de se cacher à quelque part, il a dit, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Le Seigneur a dit, quand ça va mal tout autour, on peut marcher avec la tête haute, avec confiance, avec assurance, même si les nations tremblent et ne savent pas quoi faire. Nous savons que Jésus est encore sur le trône. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il a tout ce contrôle. Il est proche de moi. Et moi, je vais lever ma voix et mes mains et je vais chanter et louer et adorer le Seigneur parce que Jésus est proche. Jésus est proche. Votre délivrance est proche. Levez les yeux. Adorez le Seigneur. Louez le Seigneur. Peu importe ce qui se passe. Parce que nous savons que Jésus est là. William Gurnall y a dit, « Aussi longtemps que la tête est au-dessus de l'eau, on ne peut pas se noyer. » C'est exactement ce que Jésus a dit. « Si votre tête est au-dessus de l'eau, on ne peut pas se noyer. » Il peut avoir de l'eau partout, il peut avoir des torrents, il faut garder la tête au-dessus de l'eau pour pas qu'on se noie sous les mensonges de l'ennemi, ni la mer de la confusion et chaos, des mille et une voix qui attirent notre attention aujourd'hui. Il peut avoir la mauvaise nouvelle qui arrive en torrent, mais nous, on va garder la tête levée. On va dire, cette fois-ci, j'adore le Seigneur, que ce soit global ou que ce soit personnel. que ce soit national ou domestique, peu importe que vous passez à travers, gardez la tête levée, les yeux fixés sur Jésus. Fais comme Abraham, reçois la promesse. Fais comme Léa et dis, cette fois-ci, je vais bénir le Seigneur et le Seigneur va bénir et bénir et bénir. Et si nous allons enfanter Jésus parmi la francophonie, ça va être par un peuple qui est capable de garder la tête levée, peu importe les circonstances, adorer le Seigneur, marcher par la foi et par la confiance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On adore, on loue, on reçoit la bénédiction. Pourquoi avoir la tête levée? Il y en a qui m'ont dit, mais dans la guerre, il faut baisser la tête. Mais nous, on a la tête levée parce que nous avons la casque du salut. Comme l'apôtre Paul a dit en Éphésiens chapitre 6, on a la casque du salut, on est couvert par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons Jésus avec nous, nous avons une promesse de l'éternité. C'est pour ça qu'on peut marcher, peu importe la guerre autour de nous, avec la tête levée. Avec une action, une attitude d'action grâce, de louange et d'adoration. Et dire, cette fois-ci, j'adorerai le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut avoir un moment d'adoration? Levons nos mains tous ensemble. Tout le monde, levez les mains, les voix vers le Seigneur, d'en arrière jusqu'ici en avant. Juste un moment de louange, d'adoration. Juste pour un instant, pour dire merci Seigneur. Merci, merci, me voici. Vous avez peut-être les deux pieds dans le fumier, les deux pieds dans la poussière ce matin. C'est peut-être le chaos qui tourne autour de vous. Vous avez peut-être la panique sur le côté finance ou familial, ou l'avenir, ou le terreur, le terrorisme, les guerres partout. Que ferai-je? Mais Jésus est là. Le Seigneur est là. Vous avez peut-être, vous êtes ici ce matin. Sûrement des centaines de personnes ici, vous êtes ici ce matin, vous êtes venus par la foi. Vous avez peut-être le cœur brisé. Vous avez été brisé dans le passé, brisé par les paroles des autres, brisé par des gestes ou des actions des autres qui vous ont laissé abandonner dans le désert. Vous avez peut-être un cœur brisé, un esprit brisé ce matin, mais le Seigneur est là. Le Seigneur voit, le Seigneur attend. Et moi, j'aimerais qu'on puisse juste prendre un instant dans la louange, l'adoration ici ce matin, afin de laisser le Seigneur parler à votre cœur. Laisse le Seigneur parler à votre cœur. Est-ce qu'on peut avoir juste les yeux fermés? Juste pratiquer la présence de Dieu ce matin. On termine dans quelques instants. Mais juste pratiquer la présence du Seigneur. Il est ici par son esprit. Il dit, Seigneur, je reçois ta promesse. Je reçois ta parole. Ce que tu as fait pour Léa, Agar et Abraham, tu peux le faire pour moi. Je reçois une parole d'encouragement ce matin. Je reçois une parole de guérison. Je reçois ta promesse que tu es avec moi dans cette situation. Tu vas me sortir de la poussière, Seigneur. Tu vas me sortir du fumier. Tu vas me sortir de cette situation. Je ne me décourage pas. Je vais te louer, je vais te bénir, je vais t'adorer. Je reçois ta parole et ta bénédiction. J'aimerais juste que tu laisses le Seigneur parler à ton cœur ce matin. Dis oui, Seigneur, à partir de ce moment, je te loue, je t'adore. À partir d'aujourd'hui, dans les bons et les mauvaises circonstances, que les gens m'aiment même pas. Seigneur, peu importe ce que les gens peuvent faire à moi, je vais te louer, t'adorer. Et je vais semer l'amour, l'amour. Je vais prier pour mes ennemis. Prier pour ceux qui nous maltraitent. Bénir ceux qui nous persécutent. Aimer mes ennemis. Semer le bien pour le mal, comme tu nous as enseigné. Dans les esprits d'adoration, d'action grâce. Et je vous promets que le Seigneur va renverser la poussière en promesse. Il va renverser votre mal en bénédiction. Le Seigneur va changer votre physionomie. Votre cœur, votre attitude, à partir de cet instant, je vais louer, je vais adorer. J'échange ma tristesse pour la joie. J'échange, Seigneur, l'abandon pour la grâce. J'échange, Seigneur, la douleur pour ta paix, ton amour et ta joie. C'est ce que je fais ce matin. C'est un acte de foi, un acte d'adoration, parce que je sais que tu es là. Combien sont prêts à lever leurs yeux vers le Seigneur? Est-ce que vous pouvez voir vos deux mains levées? Combien sont prêts à lever leurs têtes? Marchez la tête levée, les yeux levés, avec un chant de louange et d'adoration. Sébastien ne savait pas sur quoi que j'étais pour prêcher ce matin, mais il a choisi le chant parfait pour débuter la réunion. Il a chanté, j'échange, j'abandonne ma tristesse, j'abandonne ma crainte, j'abandonne mes soucis, et en place, je vais prendre la paix et la joie et la confiance du Seigneur. Et c'est le chant pour ce matin. Et j'aimerais qu'on a commencé avec ce chant et on va terminer avec ce chant. Mais au lieu de chanter, on va le faire. Fais un échange ce matin. Quittez ici avec une nouvelle perspective. Dis, je vais adorer le Seigneur. Je ne me fie pas sur les autres. Le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'accepte. Le Seigneur a une bénédiction pour moi. Qu'on puisse le chanter tous ensemble. Une célébration devant le Seigneur. Chantez-le.
J'abandonne mes tristesses.
J'abandonne. fait comme Léo a fait et Agar a fait. On abandonne.
Je les échange pour la joie du Seigneur.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.